Et à 1h05, c'est donc la dernière partie de la Grande Table, Caroline.
Dans notre série Europe, avant les élections européennes, après Camille de Toledo, Edgar Morin, Bernard Guetta, Aurélien Bernier, Julia Kristeva et Jean-Pierre Bourguignon, nous accueillons aujourd'hui donc Frédéric Lordon. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, directeur de recherche au CNRS. Disons économiste-philosophe, puisque vous êtes venu en septembre dernier pour parler de la société des affects, pour un structuralisme des passions au seuil, qui était plutôt un essai qui tirait vers la philosophie, et que vous revenez là en ce mois d'avril pour nous parler de la malfaçon, monnaie européenne et souveraineté démocratique qui paraît aux éditions Les Liens qui libèrent et qui d'une certaine façon, même si ça me fait dire que vous n'arrêtez pas d'écrire, vous permet de remettre une casquette, disons plutôt d'économiste, même si c'est un économiste très engagé politiquement, et nous allons y revenir dans un instant. Pour vous interroger à nos côtés, Antoine Mercier et moi-même, nous avons fait appel au rédacteur en chef de la revue Esprit. Bonjour Marc-Olivier Padis.
Bonjour.
Revue Esprit qui consacre son numéro d'avril au nihilisme. Alors non pas qu'il y ait un rapport entre le nihilisme et la sortie de l'euro.
Sait-on jamais. On pourrait être accusé de tout.
Mais dans ce numéro de mars-avril de la revue Esprit, on peut notamment lire un article de Anne-Laure Delatte. Faut-il abandonner l'euro? Je ne sais pas s'il en sera question. Nous verrons bien. Alors pour commencer, avec vous Frédéric Lordon, vous dites dans un avant-propos très éclairant de votre livre que vous prenez la peine tout simplement de préciser de quoi il est question dans ce livre, de quoi il ne sera pas question, de quoi vous n'allez pas parler. Par exemple, vous n'allez pas parler de la sortie du capitalisme parce qu'il ne faut pas tout mélanger et que déjà parler de l'euro et de la souveraineté démocratique c'est un sujet en lui-même. Vous n'allez pas non plus donc parler de la relance de la croissance, mais vous faites bien un essai sur la sortie de l'euro, mais non pas analysé, disons, d'un point de vue de stratégie économique, parce que quand on parle de l'euro, on a tendance à parler de l'euro en termes de dévaluation de la monnaie, mais plutôt, et là je viens à l'aspect économique, sous l'angle de la nécessaire restauration de la souveraineté, souveraineté entendue non pas au sens de national, mais au sens de démocratique. Est-ce que je vous ai bien lu dans le cœur du livre ?
Oui. Ceci près que je ne suis pas sûr que ce livre contribue beaucoup à clarifier mes identités disciplinaires, puisque en effet, vous l'avez rappelé.
Ça, c'est une boutade.
J'en situe moins l'enjeu dans une macroéconomie de la dévaluation que dans un propos politique qui prend pour objet central la souveraineté démocratique, les conditions de son annulation dans la construction européenne, les conditions de sa restauration, mais à quel niveau territorial, c'est là la question qui est posée. Et en effet, il me fallait d'abord commencer par écarter toute une série d'attentes sincères mais mal placées, puisque je me suis donné un objet assez bien circonscrit, quoique déjà assez large comme ça. Il s'agit de la construction monétaire européenne dans ses dimensions économiques mais aussi politiques. Or, c'est une question qui, pour être circonscrite, a le mauvais goût, ou plutôt non, le bon goût, d'en induire presque mécaniquement d'autres, d'ampleur encore plus grande, comme celle que vous avez citée, puisque on me fait souvent le reproche, à demi fondé, que se lancer dans un projet ou de sortie de l'euro ou de reconstruction de la monnaie commune, finalement, n'a pas d'autre conséquence que de réagencer une nouvelle configuration du capitalisme qui sera moins libérale, pas néolibérale, mais qui sera toujours, qui nous maintiendra toujours dans le capitalisme. Alors que la situation présente, enfin celle qui s'est ouverte depuis 2008, donne de légitimes envies de poser à nouveau cette question qui a été enterrée pendant quasiment 30 ans, la question de la sortie du capitalisme. Et de ce point de vue, je suis bien obligé d'avouer que je suis un petit peu hypocrite dans cette affaire, puisque si dans l'avant-propos je déclare ne laisser de côté délibérément cette question, il n'en demeure pas moins que dans la suite de mon argumentaire, j'envisage un scénario qui nous fait faire assurément un pas, peut-être même un bon pas, dans cette direction. C'est le scénario qui se livre à une instrumentation politique du défaut sur la dette, donc pas seulement pour ses propriétés de, si vous voulez, de réouverture des degrés de liberté de la politique économique, mais parce que le défaut sur la dette souveraine, qui est un événement potentiellement cataclysmique, a la propriété de mettre par terre le système bancaire et financier international, exactement de la même manière que la finance privée s'y était prise toute seule, avec les subprimes, en 2008. Et ceci alors même que, là, pour le coup, on l'a remise sur les rails sans la moindre contrepartie, et les mêmes sont repartis pour un tour, c'est-à-dire pour un nouveau round de bamboula. Je veux dire, donc, la prochaine crise financière nous pend au nez comme un sifflet de rond, et ça n'est pas dans les pathétiques manœuvres de la Commission européenne à base d'union bancaire ou de directives Barnier, etc., qu'on va trouver le moindre salut ou le moindre motif d'échapper à la prochaine crise financière. Qui se reviendra quand? Ça, on n'en a pas la moindre idée, évidemment.
Frédéric Lardot, ça c'est un des scénarios que vous envisagez dans un livre qui comprend deux parties. D'abord, impasse de l'Europe, puis en sortir. Donc on peut éventuellement suivre ce plan-là si Antoine et si Marc-Olivier Padis en sont d'accord. Mais une question, puisqu'au cœur de votre livre, il y a quand même l'idée de la confiscation de la liberté de manœuvre des États-nations en matière de politique économique. Pourquoi cela passe-t-il par l'euro? Pourquoi l'euro, en tant que monnaie unique, est-il ou est-elle, puisque c'est la monnaie, en cause? Et seule en cause? J'aurais tendance à vous poser ça comme question d'abord.
L'euro n'est pas seul en cause et c'est une précaution que je fais à plusieurs reprises dans ce livre dont je dis qu'il est un programme des conditions nécessaires, par opposition aux conditions suffisantes. Mais l'euro est en cause à ce titre, assurément. Pour saisir la différence entre conditions nécessaires et conditions suffisantes, il faut repartir d'une objection que j'entends souvent également et qui m'oppose que les principes de politique économique qui régissent la monnaie unique européenne étaient déjà à l'œuvre dans les économies nationales, avant l'euro, depuis un certain temps, depuis la fin des années 80 et le début des années 90, ça s'appelait en France la désinflation compétitive. La banque centrale les banques centrales commençaient à être rendues indépendantes tout autour de la planète, etc., etc. À ceci près que la construction européenne fait faire un pas considérable à cet état des choses et lui fait franchir le seuil de la différence qualitative en, je le répète, inscrivant ces principes dans des textes à valeur constitutionnelle, c'est-à-dire
les traités,
c'est-à-dire en les éloignant autant que possible des processus de la délibération démocratique ordinaire, laquelle suppose que tout puisse être tout le temps rediscuté. Or, de ces principes, on ne peut notoirement plus discuter.
Alors, vous expliquez bien dans le livre d'où vient cette externalisation, si je puis dire, de la politique sur l'économie. C'est une exigence allemande, puisque l'Allemagne n'aurait accepté de céder sa monnaie, on va dire, ou d'accepter de faire jeu commun sur le plan monétaire, qu'à la condition que, précisément, les politiques économiques de chaque pays soient bien encadrées. Ce rôle de l'Allemagne redonne donc aussi, dans votre essai, un sens à une politique allemande. Et je voudrais qu'on éclaire peut-être ça. Est-ce qu'il y a une volonté hégémonique de l'Allemagne ou est-ce que c'est simplement normal quand on ouvre son espace qu'il y ait des règles communes et qu'il soit forcément les plus strictes par rapport aux partenaires le plus strict?
Alors là, c'est une question qui est évidemment très délicate, surtout dans le climat de mauvaise foi argumentative qui entoure ce débat sur l'euro, puisque toute mise en cause de l'Allemagne se voit systématiquement renvoyée au registre de la germanophobie, accusée de faire ressurgir le fantasme des casques à pointe et de la ligne Siegfried. Enfin, ce sont des abaissements pathétiques du débat public, je vous le dis vraiment. Et en même temps, la question est délicate et mérite d'être discutée soigneusement, parce que là encore, finalement, à l'image de ce que je viens de dire sur la politique économique telle qu'elle était avant, telle qu'elle est devenue après, il ne faut pas manquer de voir que les États européens ont été complices, parfois enthousiastes, de ces principes de politique économique qui, cependant, oui, ont été imposés par l'Allemagne. La France s'y est ralliée en particulier, mais là, il y a une différence spécifique dans l'adhésion allemande à ces principes de politique économique, dont elle a fait en effet la matière d'un ultimatum, et c'est pas parce que c'est rentré comme dans du beurre qu'il n'y avait pas une forme de chantage. Je veux dire, on s'en aperçoit maintenant, au moment où ces principes sont les plus douloureux à mettre en œuvre et qu'il n'est plus possible de faire machine arrière. Il y a en effet quelque chose de l'idiosyncrasie allemande qui s'exprime, une idiosyncrasie historique, c'est-à-dire à temporalité limitée. Je ne suis pas en train de retomber dans des formes d'essentialisation qui s'en prendraient à une nature de la germanité ou quoi que ce soit d'autre. C'est même une formation symbolique, celle qui se noue autour de ce que j'appelle la croyance monétaire allemande, qui est relativement récente, puisqu'elle remonte aux années 20 en vérité. Mais elle a pris une force telle, il faudrait redéployer toute l'histoire allemande, économique notamment, de l'après-guerre, pour comprendre, pour éclairer véritablement la chose, elle a pris une force telle qu'elle fait l'objet, je crois, d'un consensus métapolitique en Allemagne, pas seulement unissant les deux partis de gouvernement qui, comme en France, sont dans une trajectoire d'indistinction croissante, mais rassemblant également tout le corps social, de telle sorte qu'il y a là un point quasiment sacro-saint et impossible à remettre en discussion, sauf à ce que l'Allemagne, je le crois, menace de prendre la porte.
Voilà pourquoi votre fille est muette et que l'euro est ce qu'il est.
Voilà pourquoi les principes, ces principes-là, l'indépendance de la banque centrale, la rigueur systématique des finances publiques, déficit structurel incluse, etc., etc., ont été inscrits dans ces textes-là, dans les traités européens.
Marc-Olivier Padis.
Je vais enchaîner la question sur l'Allemagne parce que, précisément, la contribution au débat que vous apportez montre bien qu'il y a plusieurs options possibles, il y a plusieurs manières de contester la situation actuelle faite à l'Europe en raison de la monnaie unique. Et vous en avez cité tout à l'heure la question de l'impasse qui est peut-être une des options qui est devant nous, le défaut. Et bon, vous présentez parmi différents scénarios qui existent aujourd'hui de sortie de l'euro, vous avez une préférence affirmée pour ce qui serait une sortie de l'euro, mais sans renoncer à l'Europe. L'idée, c'est bien de rester dans une perspective européenne et de faire une monnaie commune, repensée sur d'autres bases. Mais la question de l'Allemagne est ici centrale, puisque finalement, vous argumentez le fait que c'est tout de même les règles allemandes qui gênent aujourd'hui la négociation sur le sujet. Et dans le fond, je pense que ce serait pas trahir votre pensée de dire que si l'Allemagne sortait de l'euro, ce qui était un des scénarios possibles aussi, ça pourrait correspondre finalement à ce que vous attendez, c'est-à-dire la possibilité pour les États qui sont membres de l'euro de rediscuter la manière dont se font les règles. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est celle-là. C'est malgré tout, est-ce que vous tenez un peu comme acquis l'idée que l'Allemagne ne peut pas discuter sur ces questions d'ordre monétaire, mais pourtant n'a-t-elle pas déjà beaucoup évolué? Elle a fait des concessions beaucoup plus larges, même que la France, me semble-t-il. Dans les conseils de la Banque Centrale Européenne, il semble que beaucoup de décisions soient prises, non seulement où l'Allemagne est en minorité, mais où elle est tout à fait isolée, elle est seule, et même le représentant allemand a claqué la porte à une époque en cause de ça. Et finalement, ces déséquilibres européens sont inquiétants pour l'Allemagne. Le fait qu'il y ait cette déséquilibre des paiements, de la balance des paiements, c'est mauvais pour l'Allemagne aussi. Et donc, il y a un moment où elle peut être sensible à cet argument du fait que si l'Europe va trop mal, elle-même sera mal. Donc, est-ce qu'il n'y a pas tout de même des marges de négociation, de discussion avec les Allemands ?
Hélas, je crois qu'il y en a très peu. Il faudrait peser au trébuchet la réalité des concessions faites par la partie allemande, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient si épaisses que ça, en particulier lorsqu'on les rapporte aux programmes d'austérité et d'ajustement structurel qui ont été imposés à tous les pays, notamment les pays du Sud. Il est vrai qu'il y a, le pli du tiraillement passe peut-être au milieu du groupe des élites politiques allemandes. Et je voudrais dire d'une certaine manière que le point de vue allemand me semble entièrement légitime. Je crois que l'Allemagne se raconte des histoires à propos de son passé économique, monétaire notamment, et puis politique. Mais ça n'est pas la question. La question, c'est que ces histoires, elles se les racontent et c'est ainsi. Donc nous devons faire avec. Et nulle entreprise de rectification n'est ici opportune. Donc que l'Allemagne, dont je crois qu'elle avait beaucoup à perdre en entrant dans la monnaie unique, beaucoup à gagner aussi, hein, je veux dire, en termes strictement économiques, elle a engrangé, et notamment depuis la crise, des avantages qui sont tout à fait considérables, dont la trace la plus évidente est ce surplus incroyable de sa balance courante. Mais elle avait beaucoup à perdre dans la mise en jeu de ses propres principes et dans la composition que lui imposait, malgré tout, et quelque effort de sécurisation des 10 principes qu'elle ait fait, que lui imposait la construction européenne, donc une forme de délibération collective. Et que l'Allemagne ait voulu prolonger dans la construction européenne ses propres principes, étant donné la force de la croyance avec laquelle elle y adhère, c'est quelque chose dont on ne peut pas discuter la légitimité. Ce qu'il y a lieu de discuter, c'est s'il y avait bel et bien matière à vivre sous les obsessions allemandes et à vivre sous ces idées fixes monétaires. C'est ça la question. Que les principes monétaires de l'Allemagne conviennent à l'Allemagne, mon Dieu, on pouvait s'en douter dès le début, et nous sommes en train de le redécouvrir maintenant. Mais ils ne conviennent pas aux autres. Alors là, effectivement, les Allemands sont partagés entre le respect de leurs principes et l'adhésion continuée au projet de la construction européenne, qui leur tient à cœur malgré tout, pour toute autre sorte de raison, et les tensions sont extrêmement vives. Elles passent entre les élites politiques, à l'intérieur des élites monétaires. On a eu cet épisode absolument démentiel, je veux dire, de la Bundesbank déposant contre la Banque Centrale Européenne, dont elle est membre, à la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Que n'aurait-on entendu en France, je vous le demande, si la Banque de France était livrée à une opération pareille? Bon, alors la question, c'est de savoir où se situe le point critique et à quel moment cette tension devient véritablement un déchirement pour le corps politique allemand.
Voilà pour l'Allemagne. J'aurais revenir sur le discours autour de l'Allemagne, puisque vous nous dites que ce qui est bon pour l'Allemagne n'est pas bon pour les autres. Or, dans le discours des pro-européens, on va dire, il y a cette idée que le fait d'avoir des déficits réduits, de ne pas dépenser plus que ce que l'on reçoit, d'avoir aussi des dettes, de payer ses dettes, etc., ça paraît quelque chose de vertueux, de normal. Pourquoi est-ce que cette idée-là, vous la récusez également?
Écoutez, cette idée-là est récusée par tous les économistes hétérodoxes depuis très très longtemps, mais tels qu'on ne les entend plus du tout ou à peine dans le débat public, dont les tonalités dominantes sont tout autres. Voilà même, pour tout vous dire, que ce discours-là est récusé par le FMI en personne, qui finit par s'apercevoir tout de même qu'on a un peu déconné. Alors là, il y a quelque chose qui est tout à fait impressionnant, si vous voulez, qui est, alors c'est une autre forme de croyance, ou plus exactement de résistance de la croyance, c'est que en dépit de ces avis, si vous voulez, que les hétérodoxes objectent finalement, ce sont des pelés, des galeux, on n'en tiendra jamais aucun compte. Ça, on en a l'habitude. Mais qu'une autorité symbolique aussi consacrée, vous entendez tous les guillemets que je mets à ça, comme le FMI, finisse par douter lui-même de ses propres préconisations et des principes par lesquels on fait crever à petit feu les peuples européens, alors là, normalement, c'est quelque chose qui devrait susciter une forme ou une autre de désarmement. Et pourtant, le discours se maintient, né variétour, et il procède, mais moi, je me souviens, enfin, et il se trouve que j'ai été prof à Sciences Po il y a très très longtemps, expérience singulière, je vous assure, et que, à l'encontre de tout ce que je défendais intellectuellement, je conseillais à mes étudiants de rédiger la célèbre dissertation de parties sur le plan suivant. Première partie, pourquoi c'est nécessaire? Deuxième partie, pourquoi c'est bon? Et on n'en a toujours pas bougé. C'est atterrant.
Marc-Olivier Padis.
Alors, ce que vous demandez, c'est une réouverture du débat démocratique sur ces enjeux économiques. Mais ce que je n'arrive pas à bien saisir dans la présentation, je vois très bien en quoi le fait de sortir de la monnaie unique et de construire une monnaie commune obligerait à remettre sur la table un certain nombre d'arbitrages politiques et donc engendrerait une très grande discussion politique sur le périmètre, les bons niveaux, etc. Mais une fois créée une nouvelle monnaie commune. Vous dites bien qu'il faudrait évidemment des règles de fonctionnement, que ces règles auraient un statut...
Différentes de la monnaie unique, par définition.
Différentes de celles qu'on a aujourd'hui, mais il n'y aurait pas moins de règles et elles ne seraient pas moins contraignantes. Simplement, elles auraient été délibérées en amont autrement. Mais dans le fond, une fois ces règles établies, la conduite de la politique économique au sens même conjoncturel ou même stratégique échapperait à la délibération démocratique. Donc, il y aurait un moment démocratique et puis après, finalement, on retombe sur du pilotage de conjoncture. Donc, en quoi est-ce que pour vous, c'est vraiment un outil qui changerait la délibération démocratique.
De la même façon que l'euro pourrait concentrer, comme vous l'avez dit au début de cette émission, Frédéric Lordon, tous les mots ou toute partie des mots de l'Union européenne aujourd'hui, en quoi effectivement une monnaie commune nouvelle permettrait d'être les conditions pour que l'Europe redevienne un espace politique ou devienne un espace politique démocratique selon vos voeux?
Deux questions assez différentes et aussi substantielles l'une que l'autre. Mais là, vous avez tout à fait raison, et en effet, je ne pouvais pas le cacher. Il entre dans l'idée même d'une communauté de politique économique de se donner des règles, c'est-à-dire des principes qui encadrent la conduite des politiques économiques nationales, tout simplement parce que une communauté est, par principe, reconduite à ce problème que les économistes appellent les externalités, c'est-à-dire le fait qu'une certaine initiative d'une des parties a des répercussions sur les autres parties et sur le tout, et des répercussions que les autres parties n'ont pas souhaitées. Je veux dire, c'est ça qui a été au principe, en tout cas formellement parlant, qui a été au principe des règles du traité de Maastricht et de tous les pactes additionnels qui ont suivi. Donc, il semblerait que d'un ensemble de règles à l'autre, on n'ait pas fait un très grand progrès. Alors là, je vais vous faire ma réponse et je vous prie de m'excuser, mais vous allez la trouver parfaitement outrecuidante. Tant pis, je n'hésite pas. Pourquoi est-ce que je défends ces règles contre les autres ? Parce que ces règles sont bonnes et que les autres sont mauvaises, tout simplement. Alors après, on peut rentrer dans la discussion proprement macroéconomique, hein, ça serait toute une affaire. Donc je ne nie absolument pas que nous ayons besoin de règles pour vivre en monnaie commune, mais je dis que ces règles seront infiniment meilleures que celles sous lesquelles nous vivons actuellement. Et j'ajoute au surplus que leur révision, sans doute... liée à la réécriture ou à la reformulation de textes qui auraient la nature de traités, cette révision serait cependant plus aisée que ce à quoi nous avons affaire actuellement, pour des raisons, je dirais, de plus grande homogénéité, ou disons pour des raisons de détente doctrinale et idéologique. C'est-à-dire, nous n'aurions pas une espèce d'abcès de fixation et de point dur, de point de résistance, comme celui qui est posé par l'Allemagne actuellement. Et je ne dis pas que ça rend les choses entièrement fluides, réversibles et tout à fait aisées, mais... relativement parlant, ça les rend tout de même plus faciles.
Marc-Olivier ?
Je voudrais m'éloigner juste un instant de cette question de l'euro et revenir à la question de la souveraineté puisque, et de l'espace européen par rapport à l'espace national, puisque un de vos éléments d'argumentation, c'est de dire que les déséquilibres aujourd'hui qui existent au niveau de l'Europe sont difficiles à contrebalancer parce qu'il n'y a pas suffisamment de solidarité entre pays européens et que le bon espace de la solidarité, enfin le véritable espace de la solidarité est de facto, sans jugement de valeur aujourd'hui, c'est plutôt l'État-nation. C'est là qu'on accepte les transferts, notamment sociaux, qui compensent les inégalités territoriales, les déséquilibres territoriaux d'un endroit du territoire à l'autre. Mais en même temps, aujourd'hui, on voit ces difficultés se situer aussi à l'échelle nationale, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de revendications d'éclatement ou d'égoïsme simplement à l'intérieur des États. Donc je pense à la revendication catalane en Espagne, aux tentations sécessionnistes de l'Italie du Nord, à la Belgique bien sûr, à l'Écosse par rapport au Royaume-Uni. Donc plus généralement, est-ce qu'il ne vous semble pas que cette question de la solidarité est posée non seulement à l'échelle européenne mais aussi aujourd'hui à l'intérieur des États ?
Frédéric Lordon.
Je crois que la solidarité est la plus mauvaise façon de poser ce problème-là. Car c'est une manière de formuler la question dont je trouve qu'elle a la mauvaise propriété de substituer de la morale à de la politique. En même temps, il y a un vrai symptôme autour de ces problématiques de la solidarité intra-européenne ou intranationale. Vous auriez même pu ajouter l'Allemagne dans votre liste de pays où des tensions de cette nature se font également connaître. En effet, ce qui fait le propre d'une communauté politique authentique, c'est que les transferts financiers qui doivent s'y opérer à des fins de péréquation sont démoralisés, et démoralisés au moyen d'un procédé qui est toujours le même, qui est l'institutionnalisation. C'est l'institutionnalisation qui politise les transferts et qui les démoralise, c'est-à-dire qui les retire à une espèce de bonne volonté, altruiste, etc., dont on connaît parfaitement les limites. Bien sûr, ça n'empêche pas que la chose demeure objet de discussion. Elle le demeure, mais au travers des procédés institutionnels qui sont au principe de l'établissement de la loi de finances. Donc ces choses-là sont intrinsèquement politiques et doivent l'être. Faute de l'être, nous assistons typiquement à ce débat qui ravage l'Union européenne, dans lequel on fustige la paresse des uns, entendez les Grecs, l'égoïsme des autres, entendez les Allemands qui ne veulent pas payer pour les paresseux, et le débat sombre dans la moralisation. Cette résurgence du thème de la moralisation, et y compris à l'intérieur des pays, me semble en revanche être un symptôme. C'est un symptôme de ce que la cohérence politique des États-nations est en train de se défaire. À partir du moment où on réimporte toutes ces problématiques des transferts dans le registre discursif de la morale, de l'égoïsme, de l'altruisme, etc., alors je crois que c'est un très mauvais signe. C'est que quelque chose est en train de se décomposer.
Il est presque 13h20, Frédéric Lordon. Il faut que vous nous disiez quand même comment ça se passe quand on sort de l'euro. Si on sortait de l'euro, dans votre livre, il y a un vrai scénario. Ça serait intéressant peut-être de vous entendre sur ce point, puisqu'on nous annonce que ça serait catastrophique.
Oui. Alors, ce qui est toujours curieux, c'est que... Je suppose que c'est un biais caractéristique de la vie passionnelle, aussi bien individuelle que collective. On est toujours plus effrayé par les catastrophes inconnues que par les catastrophes connues. Dieu sait que la situation présente mérite bien le qualificatif de catastrophique, mais on s'y est fait progressivement et donc on en a pris l'habitude et on la souffre avec résignation. Je ne suis pas en train de vous dire que la sortie de l'euro serait une promenade de santé. Ça ne le sera pas. Ça pourrait l'être si, dans un seul scénario, qui me semble le moins probable, dans lequel les gouvernements européens, concertés et coordonnés, déclareraient solennellement, notamment à la face des marchés, nous avons fait le bilan de cette construction historique. Elle s'est avérée erronée. Les peuples en ont plus souffert que tirer les bénéfices. De nous-mêmes et tous ensemble, nous décidons de la défaire. Et
alors là, annule
les traités. Ça aurait un effet absolument, en tout cas on annule la partie proprement monétaire des traités. Ça aurait un effet considérable sur la finance qui est spectatrice de tout ça et qui est, étant spectatrice, également actrice de toutes les turbulences qui s'en suivent. Bon, mais ce scénario n'est pas le plus probable. Alors, une sortie unilatérale ou à quelques pays, cette sortie forcément tangra. Elle tangra parce que la monnaie néo-nationale recréée serait aussitôt soumise à toutes les turbulences spéculatives des marchés de capitaux, contre quoi il faut bien dire que la reconstitution d'un néo-franc ou d'un néo, ce que vous voulez, aurait pour condition absolument impérative la réinstitution de contrôle des mouvements de capitaux tout à fait sévère. Car il faut bien voir que ça, là aussi, c'est un point dur.
C'est possible de contrôler les capitaux.
Mais évidemment. Je veux dire, on m'oppose que on ne parvient pas à les contribuer totalement et que l'innovation financière est suffisamment rusée pour finir par les contourner. Mais c'est comme si on m'opposait l'évasion, c'est comme si on opposait l'évasion fiscale au principe de l'impôt. On sait très bien que l'impôt fuit et part de sérieux trous. Et pour autant, on n'y renonce pas. Donc un contrôle des capitaux parfait vaut mieux que pas de contrôle des capitaux du tout. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que là, il y a un point de bifurcation qui est décisif entre ceux qui l'acceptent et ceux qui ne l'acceptent pas. Car ne pas l'accepter, c'est continuer de se soumettre à ces forces absolument gigantesques et, il faut le dire, folles alliées des investisseurs institutionnels. Alors, folles alliées, quoi qu'armées d'une rationalité, mais qui est la leur, la rationalité de leurs propres intérêts. Et il va sans dire que tout projet politique de reconstitution d'une zone qui aurait pour intention explicite de se soustraire à leur empire, ne serait pas accueilli très favorablement de leur part. C'est la raison pour laquelle ce contrôle des capitaux serait absolument impératif. Il s'en suivrait d'autres choses, comme décision à propos d'un défaut partiel et dans quelle quantité sur la dette publique, réarmement d'une banque centrale qui ne soit plus indépendante et qui cependant ne soit pas totalement dans la main du gouvernement, etc.
etc. État autoritaire alors ?
Ah, voilà.
Faudrait-il.
Mais voilà. C'est ça. Mais là, je reconnais bien là le provocateur roué. Dès que nous échappons à l'empire des puissances privées du capital, et on n'y échappe que d'une seule manière, par la réaction du politique. Alors on dit État autoritaire. Et ça aussi, c'est un... Je vous fais crédit de ventriloquer l'air du temps, hein, plutôt que de parler en première personne. Parce que ça aussi, c'est un fameux symptôme.
Bon, vous avez, j'ai une dette envers vous.
Frédéric Lordon, le politique en question, c'est un politique qui est de quelle nature et de quel niveau territorial? Est-ce que vous croyez, puisque nous sommes dans la perspective des élections européennes, que c'est les électeurs qui peuvent appuyer, influencer des décisions politiques qui seraient nationales, qui influenceraient ensuite les décisions européennes, ou bien il faut partir de l'échelon européen, pour redescendre vers l'électeur de chaque nation qui compose l'Europe ou l'Union européenne d'aujourd'hui?
Ah oui, là, c'est une question douloureuse. Je veux dire, je ne suis pas une personne plus méchante que la moyenne. Enfin, j'essaye. Et donc, l'idée générale énoncée abstraitement que nous pourrions envisager quelque chose comme un espace politique européen a priori rien qui puisse me déplaire. Ce que je conteste, c'est qu'on en demeure au stade de l'énoncer en forme de posture, de ce genre de considération abstraite, sans jamais s'intéresser aux conditions de possibilité, et notamment à ce que j'appelle les conditions de possibilité passionnelles de la démocratie à une échelle territoriale donnée, européenne en l'occurrence, c'est-à-dire les conditions passionnelles de l'acceptation de la loi majoritaire. Or, je dis, enfin, je ne peux pas restituer l'argument ici, il a à voir avec l'Allemagne aussi, je dis que ces conditions ne sont pas établies et qu'on gagne beaucoup à cesser de poursuivre une chimère ou un fantasme qui ne pourra pas se réaliser, en tout cas pas à moyen terme. Par conséquent, oui, l'espace national, même si ça doit donner un caractère d'échec aux 20 années qui se sont écoulées, mais enfin, je veux dire, quel est l'échec? Où est-il exactement? L'espace national est un espace dans lequel les conditions institutionnelles, symboliques et politiques, matérielles de restauration de la souveraineté sont là et immédiatement disponibles. Ça n'empêche pas de penser à autre chose plus tard. Mais pour l'instant, il faut... l'urgence, c'est de nous sauver, si vous voulez. Or, dans l'espace, comme la seule alternative, c'est soit revenir au niveau national, soit envisager un fédéralisme, c'est-à-dire une communauté politique entièrement armée au niveau européen, et que je dis que cette deuxième option n'est pas disponible, alors il faut bien se résoudre à une forme d'évidence. Maintenant, il n'est pas moins évident qu'à empiler les niveaux politiques, évidemment, on ne rend que plus difficile les forces de rappel qui sont déjà bien faibles de la population vers les élites qui les dirigent.
La malfaçon, monnaie européenne et souveraineté démocratique, un livre de Frédéric Lordon paru aux éditions Les Liens qui Libèrent. Merci beaucoup Frédéric Lordon.
Oh, qu'est-ce que ça passe vite.
France Culture, la grande table.
C'est l'heure des idées au quotidien de Raphaël Bourgois. Restez avec nous, Frédéric Lordon, pour 5 minutes supplémentaires. Bonjour Raphaël.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Un journal, une idée.
Le 1, rien à voir avec Attila, juste le chiffre qui s'affiche en grand dans une typographie un peu art déco, en une d'un tout nouvel hebdomadaire aujourd'hui dans les kiosques. Le 1, c'est le titre programmatique d'un journal donc qui propose chaque semaine de poser une seule question d'actualité, soumise tout de même à plusieurs regards, mais aussi une seule page, un A4 qu'on déplie trois fois pour découvrir les articles et finir sur un format poster. Tout se veut signifiant dans le 1, le projet, le fond, la forme. Aux manettes, on trouve deux anciens du Monde, l'ex-directeur Eric Fotorino et l'ex-directeur adjoint Laurent Grilsheimer, ainsi que l'entrepreneur et homme de presse Henri Herman pour financer le projet. Le 1 se veut un journal d'idées plus que d'opinions, pour reprendre les mots de Fotorino. Pourtant, la participation financière d'Henri Herman importante puisque le 1 n'a pas de publicité, n'est pas totalement neutre. Rappelons qu'il a financé le think tank Terra Nova et participé à la revue Esprit. On pourrait donc le classer proche d'une certaine gauche réformiste. Mais alors pourquoi et surtout comment lancer un nouveau journal papier aujourd'hui? La révolution numérique, on l'a suffisamment dit ici, impose à ceux qui croient encore en la presse de se repenser. C'est donc avec excitation face à l'objet nouveau et un peu d'appréhension qu'on a ouvert le 1. La première impression est formelle, ce journal qui ne se feuillette pas mais se déplie, trouble un peu. On ne sait pas très bien comment le prendre, on craint un peu le syndrome carte routière de ne pas parvenir à le refermer. Mais on s'habitue et il faut dire que la maquette aérée, la possibilité d'avoir des articles de plus en plus longs alors que la feuille s'agrandit, c'est une expérience expérience de lecture plutôt agréable. Et puis, comme je l'ai déjà dit, tout fait sens face à une société qui se replie sur elle-même. On nous propose un journal qui se déplie. Bon, signalons tout de même ici d'autres expériences en matière de presse et d'innovation graphique, comme le trimestriel Article 11 qui propose de révolutionner la mise en page aussi bien que la société. On le trouve également dans les librairies. En matière de contenu, le 1 interroge écrivains, cinéastes et intellectuels. La France fait-elle encore rêver ? Un texte du prix Nobel de littérature J.M.G. Le Clézio raconte son rêve de France fracassée sur la réalité de la colonisation et d'appeler de ses voeux cette France qui sortirait de l'uniculturel. Un autre du philosophe Zetan Todorov revient lui aussi sur la question de l'identité fragile de la France et prône le retour à ce qu'on a pu appeler le génie français qui savait absorber les ajouts, adaptations et rencontres. Sur la grande page intérieure, plusieurs témoignages d'artistes venus d'ailleurs. Rien de très neuf, mais plutôt dans l'air du temps. Le dernier numéro de la revue Des Deux Mondes et le dernier numéro de la revue Le Débat se concentrent, elles aussi, sur la guerre des identités. On peut donc dire que le 1 prend acte de l'accélération de l'époque imposée par le numérique et se propose de créer une temporalité nouvelle par son format court qui doit nous faire réfléchir longtemps. Le sujet unique est une idée séduisante, quoique pas tout à fait neuve, puisque la revue au fait propose un peu la même chose. C'est sur le fond qu'elle se révèle pour l'instant décevante, malgré la réunion d'un aréopage de sages au comité éditorial, citons Edgar Morin, Michel Rocard, Elisabeth Banater ou encore Régis Debray, une promesse à tenir donc.
Merci Raphaël Bourgois. N'oubliez pas d'aller sur le site de France Culture à la page de la Grande Table pour retrouver les références bibliographiques et les divers liens et vous abonner au podcast à la technique aujourd'hui. C'était Alexandre Dang et on se retrouve demain.